Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza, Quentin Duchemin, Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission du cours WE1, écrire sur le web enseigné à l'UTC par Stéphane Croza. WE1, c'est un cours dans lequel on apprend à mobiliser des connaissances théoriques sur le numérique et sur le web, notamment pour adopter une posture réflexive quant à ses usages du web en tant que futur ingénieur. On apprend aussi le web par la pratique en manipulant un serveur web pour savoir publier des documents de façon autonome. Et puis on aborde aussi des dimensions culturelles, éthiques, politiques du web. Donc chaque semestre, les étudiantes de WE1 constituent des groupes pour réaliser un projet qui consiste à publier sur le web un dossier thématique qui aborde une problématique technologique du web. Dans ce dossier, on trouve des articles, des fiches de lecture, des interviews aussi parfois, et puis toujours une intervention radio. Et donc, c'est pour ça qu'on a enchaîné les interventions sur les deux mercredis précédents et aujourd'hui. Et donc, il y a quelques instants aussi, on était avec trois étudiants qui nous ont présenté leur travail sur le thème de l'évolution de la diffusion de l'actualité sur le web. Et à présent, on continue avec Wemboli, Hayang Ma, Lassa Mac et Dorian Terla. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour.
Vous avez choisi de réaliser votre dossier sur le thème de l'OSINT, l'Open Source Intelligence, ou en français, renseignement en sources ouvertes. Et pour étudier ce thème, vous avez choisi de le mettre en lien avec la protection de la vie privée. Donc on va vous écouter nous présenter un exposé à quatre voix à ce sujet. Et pendant ce temps, les étudiants et les étudiantes du TD sont à l'écoute de votre intervention et sont prêts à vous poser quelques questions sur Mattermost que je vous relayerai au micro. Vous avez l'habitude maintenant. Alors Wembo, on va te donner la main pour commencer cette intervention. Tu vas nous parler du rôle de l'OSINT et nous donner quelques exemples de cas d'usage.
Okay, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'OSINT et vie privée, dangers et contre-mesures. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter la définition de l'OSINT et problématique. L'OSINT, ou Open Source Intelligent, comme on a pu le voir la semaine dernière, est un ensemble de méthodes d'enquête à partir de sources accessibles publiquement. On peut également parler de SOCMINT ou Social Media Intelligent dans le cas où l'enquête se base sur des informations disponibles sur les médias sociaux. Ici, nous évoquerons l'OSINT en incluant cette notion de SOCMINT par simplicité. On a vu l'émergence de ces méthodes depuis la popularisation d'Internet qui a offert au grand public un accès facile à des quantités d'informations auxquelles les enquêtes professionnelles avaient auparavant d'accès. C'est un outil puissant et accessible à tous, et pour cette raison, on peut en observer des dérives. Ainsi, nous nous poserons la question suivante. Comment l'OSINT peut menacer la vie privée? Comment s'en protéger et en protéger les autres. Ensuite, je vais vous présenter le rôle de l'OSINT dans la vie générale et dans les moments de crise afin que vous puissiez comprendre comment l'OSINT peut influencer notre vie quotidienne. En général, la police et les agents nationaux chargés de l'application de la loi peuvent utiliser et superviser l'OSINT pour prévenir des crimes et afin d'enquêter sur les suspects. Au Royaume-Uni, lors des émeutes de Londres en août 2011, la police britannique a fait de l'OSINT la clé de la capture des coupables suite à des pillages et des actes de délinquance. La police londonienne a intercepté et utilisé des messages instantanés BlackBerry chiffrés tandis que RIM, le propriétaire du BlackBerry, a collaboré avec l'organisme chargé de l'application de la loi pour permettre l'arrestation de suspects et suivre l'activité sur Twitter au moyen de hashtags. À la suite des émeutes de Londres, la police londonienne a créé un compte Flickr et mis en ligne des photos des suspects en demandant au public de les identifier entre eux. Selon le rapport Demos, au final, 770 personnes ont été arrêtées et 167 inculpées, notamment grâce à la participation du public dans les investigations. En outre, les 2800 images de vidéosurveillance prises pendant les émeutes ont été téléchargées sur l'application mobile FaceWatch. Dans ce cas-là, le public pouvait utiliser les photos pour identifier des suspects à la demande de la police.
Les réseaux sociaux sont aussi largement utilisés par ceux qui s'opposent aux émeutes. Beaucoup d'habitants des quartiers touchés par les pillages se sont retrouvés dans les rues le matin, balai en main, pour nettoyer les dégâts.
Un ami à moi a mis un lien sur Facebook qui disait d'être à 10h à la mairie de Hackney si on voulait aider. Alors je suis venue.
De nombreuses opérations de soutien aux victimes ont aussi pris des dimensions inattendues grâce à leur circulation rapide sur la toile. Et la police n'est pas en reste dans l'utilisation de ces plateformes. Elle invite le public à identifier des fauteurs de troubles filmés par les caméras de vidéosurveillance et elle tweet des informations sur les émeutiers condamnés par la justice. En parcourant Internet et en postant des messages, publics ou privés, chacun laisse une empreinte sur la toile, un sillage électronique, qui facilite les recherches de la police en cas d'enquête. Pas sûr qu'elle ait intérêt à se priver de cet usage.
Bon, ensuite, en période de crise, le gouvernement national peut exploiter l'OSINT pour l'informer à temps la population sur l'état du pays et assurer mieux l'ordre. Pendant l'épidémie COVID-19 en Chine, le Health Code repose sur une grande base de données contenant des informations personnelles sur un grand nombre d'habitants du pays, allant d'informations comme le nom, le sexe, le numéro de téléphone portable, le numéro de carte d'identité, l'adresse, mais aussi le suivi des activités, des informations de santé et l'historique de contact. Ces données étant déclarées par les utilisateurs eux-mêmes de manière véridique et indépendante. Mais le système de Healthy Code est également relié aux données des opérateurs de télécommunications, aux données des paiements de banque et aux données des sociétés de transport. En examinant ces données et en les croisant pendant l'épidémie, le gouvernement chinois est donc en mesure de suivre avec précision les déplacements de ses citoyens, ce qui permet une prévention et un contrôle précis et traçable de l'épidémie. En effet, il est possible de demander aux citoyens d'effectuer un test de dépistage de façon ciblée via SMS et Internet. Il est possible de publier les déplacements ainsi que les adresses des patients positifs sur Internet afin que le public puisse éviter les traces et les adresses de patients positifs pour prévenir la transmission. Ainsi, toujours en croisant les informations récoltées sur des patients positifs, il est possible de déterminer où et quand les contaminations ont pu avoir lieu, et ainsi prévenir l'apparition de clusters afin de mieux réguler l'épidémie. On peut donc constater que l'État, grâce à l'utilisation de l'OSINT, peut mettre en place des moyens d'enquête très puissants afin de retrouver des coupables, notamment lors de mouvements sociaux tels qu'à Londres. L'OSINT est un outil puissant et les gouvernements n'hésitent pas à l'exploiter dans leur gestion de crise, comme on peut le voir en Chine avec le Health Code pendant l'épidémie. Cependant, comme on peut le soupçonner en constatant la masse d'informations recueillies par le gouvernement chinois dans sa gestion du Health Code, l'OSINT peut entraîner des problèmes, notamment concernant la vie privée des personnes qu'elle cible. Et le dérive de l'OSINT seront l'objet de la partie suivante.
Merci Wembo pour l'explication de ces exemples très précis de cas d'usage. Donc où là, on voit clairement des rapports de force qui se jouent avec l'usage de l'OSINT. Là, tu nous décris un outil numérique qui est utilisé vraiment comme un outil de surveillance et de contrôle étatique qui semble non négociable, hein, total, auquel il est impossible d'échapper. Hein. C'est vraiment ce que tu décris là. Alors bon, les sociétés, les régimes politiques sont différents au Royaume-Uni et en Chine. Les deux situations. Que tu as décrites s'inscrivent aussi dans des cadres légaux différents. Mais voilà, tu as très bien souligné le point commun dans l'usage de l'OSINT, qui est deux gouvernements qui utilisent des traces numériques pour identifier des personnes et les contraindre légalement. Est-ce que tu sais si, dans l'autre sens, l'OSINT a déjà été utilisé dans un usage qu'on pourrait dire peut-être plus démocratique, c'est-à-dire comme un outil de surveillance par des citoyens, de personnes en situation de pouvoir. Est-ce que tu aurais des exemples en tête parce que comme l'OSINT est fondé sur des données publiques, accessibles à tout le monde, est-ce que on a des exemples? Est-ce que je m'adresse à tous les quatre aussi, si ça ne devient pas immédiatement? Est-ce que vous auriez en tête des exemples comme ça de situations où l'OSINT aurait été utilisé dans l'autre sens par les citoyens pour surveiller dans l'autre sens les personnes en situation de pouvoir? Non, ça ne vous dit rien, ça ne vous dit rien. Ok, si je vous dis jet privé, est-ce que ça vous dit qu'il y a... Vas-y,
Dorian. Oui, on a le compte Twitter, alors je ne connais plus son nom exactement, mais un compte Twitter qui en fait suit les déplacements du jet privé d'Elon Musk, donc à partir de données récoltées publiquement en fait. C'est des données qui sont accessibles à tous, au public, et en fait ça a été assez mal accueilli par... Elon Musk qui voulait que le compte ferme en fait. puisqu'il trouvait que ça, en fait, ça pouvait porter atteinte à sa vie privée et ça pouvait être dangereux pour lui.
Oui, oui, oui. Et puis, c'est vrai que ce genre d'outil-là, donc tu prends l'exemple d'Elon Musk, mais en effet, c'était ça. Donc, ça avait ciblé aussi donc, différentes personnes, des milliardaires qui donc, utilisaient leur jet privé pour se déplacer très régulièrement. Et donc, ces données-là, le suivi des vols est en effet disponible. Ce sont des données accessibles à tout le monde. Et donc, on pourrait dire ici que alors, ça a été des données utilisées pour aussi dénoncer les déplacements très réguliers en jet privé et l'impact que cela pouvait avoir sur l'émission de CO2 et puis le réchauffement climatique. Donc là, on peut voir un exemple d'outil qui peut peut-être parfois rétablir certains rapports de force. Mais ce que tu as décrit, Wembo, est très intéressant. J'ai une question de Merwan qui est peut-être plus proche de ces exemples-là que tu as présentés. Est-ce que Merwan se demande s'il est possible, à l'échelle personnelle, de connaître ces données personnelles disponibles sur le web? Est-ce que c'est accessible pour tout le monde? Si oui, dans quelle mesure? Si j'essaie peut-être de cadrer un petit peu cette question-là, est-ce qu'il est possible, dans les situations, par exemple en Chine, dans la situation que tu as décrite avec le Health Code, est-ce qu'il est possible de savoir quelles données personnelles, en tant que citoyen chinois, est-ce qu'il est possible de savoir quelles données sont dans les mains du gouvernement et utilisées pour le Health Code? Est-ce qu'on sait ça?
En effet, tous les citoyens, faut envoyer leur information. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, je donne mes données, donc je peux vérifier seulement mes données. Je ne peux pas vérifier, par exemple, Madame Audrier, des informations. Je ne peux pas vérifier ça. Donc, il y a un cas, je peux connaître des informations, par exemple, Madame Audrey, c'est seulement Madame Audrey est positive. D'accord. Donc, par exemple, le gouvernement chinois va poser toutes les informations, par exemple, comme les adresses et les traces que Madame Audrey. Donc, je peux savoir les adresses de Madame Audrey et dans ces là, et donc c'est bon.
Ça ferait partie des informations publiées, justement. Donc, si je suis positive en Chine, mon adresse personnelle, par exemple, est une donnée publiée et accessible à d'autres citoyens, c'est ça?
C'est ça, exactement.
Donc, ça va assez loin. Ok. Ayang, merci, Wembo, pour ta réponse. Et ta première partie, donc la première partie de cet exposé sur l'OSINT et la vie privée. Ayang, tu vas poursuivre sur une seconde partie où tu vas nous parler justement de pratiques abusives de l'OSINT. Est-ce que tu es prêt?
Oui, je suis prêt.
C'est à toi.
Ok. Bonjour. Alors, je vais maintenant parler des controverses de l'outil OSINT en présentant tout d'abord ses pratiques abusives. Alors, puisque les enquêtes peuvent être menées par tout le monde, y compris des personnes mal intentionnées, l'outil OSINT peut mener à des campagnes de harcèlement, voire à des agressions. Ainsi, pour peu qu'une enquête ait été menée avec un manque de sérieux, des innocents peuvent voir leur vie privée affichée sur Internet et subir des campagnes de harcèlement. De plus, même pour les enquêteurs professionnels, il existe encore des pièges dans l'utilisation de l'OSINT, tels que des interprétations des faits déformés par inadvertance. Par exemple, lors d'une enquête sur un événement spécifique, il n'est pas rare que les enquêteurs soient attirés par une série d'indices et incapables d'examiner objectivement les faits. Et l'enquête peut devenir un patchwork d'histoires, une vérification d'idées fixes, de sorte que la considération et l'examen d'ensemble sont perdus. Comme l'a dit Alium Leroy, journaliste à BBC Africa Eye et spécialiste des enquêtes sur les sources ouvertes, on peut tout faire dire à une image. En conséquence, le bureau des enquêtes de la BBC a des protocoles stricts, ainsi que des enquêteurs externes qui vérifient spécifiquement les éventuelles dérives dans les enquêtes. Et lorsque les conclusions de l'enquête peuvent avoir des conséquences importantes, une déformation délibérée ou même une falsification peut également se produire. Le South China Morning Post, l'un des journaux payants de langue anglaise les plus vendus à Hong Kong, a rendu compte du Health Code le 25 juillet.
And there's been concern that some local governments have abused the health code system by using it not just for public health. The most recent example is in Henan province. Victims of a suspected bank fraud were given a red health code as they arrived in the provincial capital Zhengzhou to protest and demand the return of their savings. After public outcry and media coverage, several health and public security officials were disciplined. There have also been incidents of health code systems crashing, causing severe disruptions in some cities.
The central government has stressed that the healthcare system is strictly for public health purposes. Officials have also been saying that residents with yellow or red health codes cannot be denied entry into hospitals or their own homes. But reports of such incidents still happen from time to time. So as long as China sticks to its zero COVID strategy, the health code is likely here to stay.
Alors, en plus des abus précédemment vus, nous pouvons également voir des multiples façons de l'OSINT pour nuire à la vie privée, ici dans le cas du Health Code en Chine. En tant qu'agence d'enquête, l'équipe du Health Code a centralisé les données sensibles de centaines de millions de citoyens chinois, y compris les coordonnées, le suivi des activités, le numéro d'identification et certaines informations médicales. Ces données pouvaient être volées par des attaques malveillantes, par des pirates, voire vendues directement par ceux qui le souhaitent. Les informations de 48,5 millions d'utilisateurs du Health Code de Shanghai, d'après l'agence de presse Reuters, ont été vendues sur les forums. Les informations de certaines célébrités ont également été regroupées par la vente. De plus, le gouvernement chinois a publié des informations détaillées sur les personnes infectées au stade précoce de l'épidémie, comme on a vu précédemment. En plus de la piste d'activité, il inclut même directement le nom, ce qui a conduit les internautes à lancer directement des chasses à l'homme et à infliger des cyberviolences aux personnes infectées. Cependant, le 7 décembre, le gouvernement chinois a annoncé une nouvelle politique de prévention et de contrôle de l'épidémie après les récentes manifestations à grande échelle du public, qui ont considérablement assoupli l'intensité du contrôle. Par la suite, Journey Card, la carte d'itinéraire, a été annoncée hors d'usage à partir du 13 décembre. Certaines photos montrent également que les affiches de Venue Code, code lieu, dans les lieux publics tels que les stations de métro ont été retirées par les personnels. Peut-être qu'à l'avenir, tout le système de Health Code sera complètement aboli. Et le fait que ces mesures fortes, temporaires, controversées soient restreintes au lieu de devenir la norme à l'avenir peut être considéré comme une victoire de la vie privée sur la surveillance de masse.
Merci Yayang pour l'explication de cette partie sur les pratiques abusives de l'OSINT et le cas particulier donc du Health Code chinois. Tu as mentionné l'existence donc en Chine de chasses à l'homme qui ont eu lieu donc pour retrouver des personnes infectées par le Covid en suivant en fait les données récoltées et publiées par le gouvernement. Donc tu as parlé de ça tu as aussi dit dans la première partie de ton intervention tu as cité Allium Leroy qui disait on peut tout faire dire à une image, hein, c'est une citation assez explicite pour évoquer justement les erreurs qui peuvent être commises aussi dans des enquêtes fondées sur l'OSINT. Alors avec ce que tu nous expliques là, ça peut nous amener donc à penser que personne au fond n'est à l'abri d'être la cible d'une fausse piste hein, et que même si on se sait innocent de tout crime, si on est désigné comme cible, la seule existence de données ouvertes sur nous peut donc finalement être dangereuse. Et donc même si on parvient après à rétablir la vérité, s'il y a des erreurs comme ça, on se rend compte que eh bien, la collecte de données est irréversible et qu'elle amène à des conséquences irréversibles, on ne peut pas revenir en arrière, même si, comme tu le disais juste là, après, voilà, y a certains accès à certaines données, tu parlais de cartes d'itinéraire qui ont été enlevées, même si au fur et à mesure on enlève ce genre d'outils-là, les données ont été collectées, ont été publiées, et puis on se rend compte qu'on ne peut pas revenir en arrière. Pourquoi est-ce que justement dans la collecte des données, il y a ce caractère irréversible-là ? Pourquoi est-ce qu'une fois que ces données ont été collectées, publiées, on ne peut pas revenir en arrière, même si le gouvernement tente parfois de faire un petit peu marche arrière ? Pourquoi est-ce que on a ce caractère-là du numérique qui est assez particulier ? Pourquoi est-ce que c'est différent, par exemple, de scanner un QR code quand on va aller quelque part pour laisser une trace numérique ? Pourquoi c'est différent de faire ça plutôt que de noter, par exemple, son numéro de téléphone sur un carnet papier ? Comment ça se fait que le fait de laisser des données comme ça être collectées et publiées, une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière ?
Bon, je dirais tout d'abord, il y a une phrase, l'Internet a des mémoires. C'est-à-dire on laisse tout le temps les traces sur Internet. Et comme l'exemple que j'ai dit, il y a 48,5 millions d'utilisateurs, leurs informations sont sur le forums pour vendre. Et ces données-là pourraient exister, par exemple, dans les deep web. Et là, on ne peut pas facilement effacer, il reste là et vendre par plusieurs fois, peut-être. Et de plus, on fait autant, par exemple, quand on fait des recherches à l'homme, on fait des mal mental, physique, etc., aux personnes réelles. Et ces douleurs-là restent toujours.
Entendu, Ayang. Merci. Merci pour ta réponse. J'ai une question de Merwan qui se demande si ces problématiques concernent uniquement la Chine. Vous avez parlé tous les deux, vous avez très bien expliqué la problématique autour du health code qui est utilisé en Chine. Est-ce que ces problématiques de récolte massive de données et d'usage par les gouvernements est unique à la Chine ou est-ce que c'est assez générique et ça concerne les utilisateurs du monde entier? Est-ce que vous avez quelques pistes pour cela ou est-ce qu'on avance un petit peu trop sur la suite de votre présentation?
Perso, je crois que, par exemple, en France, on a déjà des applications qui ressemblent un petit peu à Health Code, mais évidemment, ce sont des échelles différentes. On récolte moins d'informations ici, donc je pense que ça dépend du politique pris par les gouvernements.
Ouais. D'accord, rien. Oui. Après, les choix se font au niveau de qu'est-ce qui est collecté, où se font ces choix justement au niveau de la collecte des données. Mais tu retrouves un point commun sur les principes. D'accord, entendu. Ok, alors on va voir qu'en France, en Europe, mais en France, on a aussi un cadre légal différent qui va aussi nous protéger la vie privée par rapport à la collecte de données. Là, ça, je crois que tu nous en parles donc dans la troisième partie de votre présentation. Tu vas nous expliquer comment se protéger de certaines dérives de l'OSINT. C'est à toi, là, ça.
Bonjour. Du coup, je vais vous parler de comment se protéger des différentes dérives de l'OSINT. Et notamment en parlant de sensibilisation et de règlement autour de la collecte de données. Donc, comme nous avons pu le voir précédemment, et notamment la semaine dernière, l'OSINT peut être utilisé en bien, mais également dans un but de nuire à une personne. La présence de nos données personnelles, si elles tombent entre les mains de personnes mal intentionnées, peuvent conduire à des attaques de phishing, à de la désinformation ou encore des attaques concurrentielles pour une entreprise, par exemple. Ainsi, le meilleur moyen de se protéger des dérives de l'OSINT, c'est de protéger au mieux ses données. Et avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux, de plus en plus de données personnelles sont mises en ligne et accessibles lors d'enquêtes OSINT et SOCMINT. La réunion de toutes les données collectées en ligne permet aux enquêteurs de mieux connaître leurs cibles pour potentiellement y nuire. Il est donc important d'être sensibilisé sur le sujet de la protection des données en ligne. Et ce, dès notre plus jeune âge. Cette sensibilisation peut donc être faite dans les collèges et les lycées lors d'interventions, mais également lors de formations dans les entreprises, où les attaques de phishing sont très courantes. D'après le journal Le Monde Informatique, au cours du seul troisième trimestre de 2022, les courriels contenant des logiciels malveillants ont augmenté de 217% par rapport à la même période en 2021. Donc pour donner un ordre d'idée, lors du pic en juillet 2022, le nombre d'emails malveillants était de 19,2 millions. Malgré tout cela, on peut tout de même noter une prise de conscience face aux dangers liés à la mise en ligne de nos données. Et donc, je vais vous présenter maintenant un extrait audio d'une interview du directeur de la sécurité et du renseignement du groupe Engie, qui parle justement du problème de la mise en ligne d'informations personnelles d'une entreprise.
Je prends un exemple simple. Dans l'entreprise, pas une entreprise n'utilise pas les réseaux sociaux pour communiquer. Donc vous avez des dirigeants qui ont un profil LinkedIn qui, vous en doutez, c'est pas eux qui sont derrière, mais néanmoins communiquent toute la journée au titre de l'entreprise et du coup s'agrègent sur ces pages tous les gens qui sont dans l'entreprise ou d'ailleurs qui n'y sont pas, les prestataires qui vont chacun de leurs commentaires, qui amènent un certain nombre de commentaires, qui amènent un certain nombre d'informations. Et évidemment, tout ça génère des risques. Alors, comment est-ce qu'on fait? J'en ai parlé un peu tout à l'heure. Beaucoup de formations, et l'État est très présent sur ce domaine-là, hein, notamment la DGSI pour ce qui est de leur cellule protection du patrimoine. Vous avez la DRSD, dès l'instant où vous avez des établissements ou des sites ou des secteurs d'activité qui tombent sous le coup de la loi de programmation militaire. Vous avez une organisation interne qui permet avec une politique de protection des données personnelles, qui permet de régler les choses et de rappeler les droits et les devoirs des personnels dans l'entreprise. Et puis après, vous avez le recours juridique.
Donc, comme il a été mentionné dans l'audio, il existe de nombreux moyens, comme des lois et des organismes, afin de limiter les dangers liés à la mise en ligne d'informations personnelles. Donc, tout d'abord, depuis 2016, l'Europe est soumise au Règlement général sur la protection des données, donc c'est le RGPD. Ce règlement vise, comme son nom l'indique, à protéger les données des utilisateurs sur Internet. Ce nouveau texte de loi oblige les sites Internet à expliciter dans quel cadre les données personnelles vont être utilisées, ainsi que le temps de conservation de celles-ci, et si elles seront utilisées en dehors de l'Union européenne. En France, la Commission nationale de l'information et des libertés, la CNIL, assure le respect des lois sur la protection des données. Sur le site internet de la CNIL, il est expliqué que c'est un organisme qui a un rôle d'alerte, de contrôle, de conseil et d'information envers tous les publics. Et elle a également un pouvoir de contrôle et de sanction. Et du coup, en termes de sensibilisation, il est intéressant de mentionner qu'il est recommandé aux différentes structures de mettre en place un délégué à la protection des données, donc l'appellation un DPD. Ce DPD a un rôle d'information, de conseil et également de coopération avec la CNIL. Cette coopération permet d'assurer que le RGPD est bien appliqué au sein de la structure, mais également, en cas de problème, d'aider le travail de la CNIL en facilitant l'accès aux informations nécessaires. Donc la France a mis en place de nombreux moyens pour lutter contre la collecte de données et donc également contre les dérives de l'OSINT. Cependant, ces moyens ne permettent pas une protection totale. En effet, la plupart de nos données sont hébergées sur le continent américain où le RGPD n'est pas appliqué. Et donc en cela, on observe une faiblesse dans le règlement. C'est pour cela que, comme expliqué précédemment, il est indispensable que chaque utilisateur soit vigilant sur les informations qu'il laisse sur Internet.
Merci beaucoup, Lassa, pour cette troisième partie donc sur la protection de ces données et puis le RGPD, le règlement donc, qui protège les données des citoyens et des citoyennes au niveau européen. Et donc, tu nous expliquais très bien, en effet, hein, la CNIL en France a ce rôle de protection, d'accompagnement aussi des structures, de contrôle et des sanctions, de sanctions aussi pour les établissements, les entités qui récoltent des données. Il existe des sanctions, des amendes donc, hein, de la CNIL pour les entreprises, par exemple, qui collectent des données sans respecter le RGPD. Et on voit parfois passer ces informations d'amendes records de la CNIL de plusieurs centaines de millions d'euros pour l'intention de Google. On parlait de Discord un petit peu plus tôt cet après-midi. Donc il y a des amendes de la CNIL pour envers des établissements localisés en France, en Europe. Là, on peut comprendre que ces sanctions sont effectivement appliquées. Est-ce que l'on sait si ces sanctions-là s'appliquent également, peuvent également s'appliquer aux entreprises qui sont situées, par exemple, aux États-Unis? Tu nous disais que c'était un petit peu plus compliqué, en effet, par rapport aux entreprises qui sont aux États-Unis et qui récoltent des données sur les citoyens européens. Est-ce que, on a un moyen de savoir si les sanctions de la CNIL sont réellement appliquées vis-à-vis de ces entreprises-là?
D'après moi, je ne crois pas qu'il y ait de règlement mondial par rapport aux collectes de données, donc qui s'appliquerait dans tous les pays. Du coup, c'est un petit peu compliqué de gérer la présence de données dans d'autres pays et dans d'autres continents. Après, en tout cas, du coup, dans l'Europe, il y a le RGPD qui s'applique. Donc, dans toute l'Europe, en théorie, nos données sont protégées. Après, en dehors de l'Europe, je pense que c'est un petit peu plus compliqué à contrôler.
D'accord. Donc, la conclusion de cela, c'est que si on veut effectivement être très attentif à l'usage de nos données en tant que citoyen français, par exemple, l'idée, c'est plutôt de choisir donc des organismes, des outils qui sont localisés en Europe, puisque là, on est sûr qu'a priori, ça va être le RGPD s'applique. En tout cas, on a des organismes qui sont censés, qui contrôlent l'application du RGPD, qui vont avoir un réel pouvoir de sanction, alors que quand ça se passe ailleurs, là, on est moins sûr. C'est ce que tu nous expliques.
Okay. Oui, c'est ça.
J'ai une question de Tom qui rebondissait sur la partie où tu nous parlais du phishing par mail. Donc, en effet, cette technique malveillante qui consiste à récolter des données en trompant quelqu'un qui va recevoir un email qui va de bonne foi, par exemple, renseigner des informations personnelles dans un formulaire en ligne, alors que l'email, par exemple, fait du mimétisme, mime un email officiel, d'une compagnie officielle, par exemple. Tom se demande s'il y a un moyen de vérifier si le mail n'est pas du phishing ou est-ce qu'on peut juste vérifier l'adresse mail? Comment on peut faire justement pour se prémunir de ce piège-là? Est-ce que tu as une piste ou tes collègues éventuellement?
J'ai pas trop de réponses réellement, mais après, d'après mon expérience, souvent quand on reçoit des mails d'une entreprise qui n'ont pas forcément de rapport avec nos récents contacts ou achats, par exemple, on se rend vite compte que c'est pas forcément un mail officiel et à supprimer ou...
D'accord, vérifier. Ok, on a le contenu du mail, les sources du mail, où on peut voir vraiment à partir de quel nom de domaine aussi il a été envoyé. Bref, allez vérifier tout ça, ne pas cliquer trop vite en tout cas. C'est ce que tu nous dis là, ça. Ok, ça marche. Bon, alors écoutez, on va passer à la dernière partie. Dorian, pas de pression, mais tu vas clôturer cette saison des émissions des étudiants et des étudiants de WE1. Tu vas nous parler du flou législatif qui existe quant à la protection de la vie privée face à l'OSINT. Tu es prêt, Dorian? C'est à toi.
Bonjour. Alors, comme on l'a vu précédemment, les enquêtes OSINT, c'est un outil très puissant, mais il a des dérives. Et face à ces dérives, il y a des lois qui existent, en fait, pour protéger la vie privée, donc on l'a vu précédemment. Mais on peut se poser la question suivante, est-ce qu'elles remplissent totalement ce but? Donc, pour essayer de répondre à cette question, on va pouvoir se baser sur un article de Léonore Tenulsen, donc chercheuse en droit pour le journal Amsterdam Law Forum. Donc, dans cet article, on nous présente une étude de cas d'une enquête OSINT menée par le collectif Bellingcat sur un criminel qui est recherché aux Pays-Bas et qui a fait l'objet d'un message télévisé de la police néerlandaise pour demander au public de donner des renseignements permettant de le localiser. Donc Bellingcat, suite à son enquête, a réussi à localiser le criminel grâce à la collecte de données de photos en fait sur son profil Instagram entre autres. Et donc a pu déterminer sa localisation en déduisant des informations à partir notamment des photos. Mais d'après Tenelsen dans l'article, il est difficile de déterminer s'il y a bien eu une atteinte à la vie privée lors de l'enquête, puisque il y a plusieurs arguments pour ça. Je vais pas les détailler ici, mais l'un des arguments qui est avancé, c'est que les lois de protection des données personnelles elle protège les données, mais pas les informations personnelles. Et donc, par exemple, une collecte d'informations, une collecte de photos automatisée afin de déduire des informations sur la localisation d'une personne, ce sera puni par le RGPD. Mais la consultation et la déduction d'informations manuelles, donc par les méthodes d'OSINT, c'est pas puni par le RGPD, en fait. Donc, il y a une vraie distinction à faire entre la protection des données personnelles et la protection de la vie privée. Et il faut également faire attention aux publications que l'on fait à titre personnel, ça ne s'arrête pas là parce que ça peut également passer aux publications de sa famille, de ses proches, comme en parle l'extrait de la vidéo suivante de David Bombal.
The flaw of trying to hide online lies in the hand of your friends and family. Yeah. Because they will post that picture of the family reunion. They will post a picture of you having dinner with your friends in either your backyard or restaurant. So even though you might be trying to stay off all of the platforms, it's the people who stand close to you who are your biggest risk. Probably.
Well, it's even worse than that, right? I mean, if we want to get really scary with facial recognition that's out there, I mean, David, you're walking through the city just minding your own business, and there's some tourist there that takes a selfie of themselves, and you're in the background, and you just happen to look. Now, whatever platform they are posting, they have a shadow profile for a person with your face. So even if you don't have your David profile on that platform, they know that a person with this face happened to be in that location on this date, and oh look, they were over here on this other date. So there are a lot of privacy issues that are really, really important. The more private a person is, the less OSINT we can find online about them.
Donc en partant du constat que les lois et les outils actuels ne suffisent pas à protéger pleinement la vie privée des individus, on va essayer de trouver des outils qui sont plus adaptés justement à cette protection. Et donc, toujours dans son article, Tenelsen pointe du doigt le besoin de mieux délimiter la vie privée et de déterminer de façon plus précise, de façon plus claire, si dans un cas précis, il y a eu une atteinte à la vie privée ou pas. Et donc, pour ça, Hélène Nissenbaum, pardon pour la prononciation si ce n'est pas exact, qui est professeure à l'Université Cornell aux États-Unis, propose le concept d'intégrité contextuelle. Et donc, ce concept assez théorique, il permet de déterminer si un flux d'informations respecte ou non le contexte de base de l'information. Donc, on la replace vraiment dans son contexte. Ainsi, on peut protéger la vie privée des personnes. Donc, on parle de flux d'informations, en fait, pour clarifier, c'est vraiment tous les transferts, tous les partages, toutes les communications, en fait, pour vraiment pouvoir appliquer ce concept à toutes les situations et tous les contextes, du coup. Donc, par exemple, dans un contexte médical, le patient peut s'attendre à ce que son médecin ne dévoile aucune des informations de santé à ses proches, à ses amis, à ses collègues. S'il le fait, en fait, il aura sorti l'information de son contexte et on pourra considérer qu'il y a eu une violation de la vie privée du patient. Et donc, en appliquant ce concept à l'OSINT, donc dans notre étude de cas, en fait, Tenulsen dit que, dans notre cas, il y a une atteinte à la vie privée du criminel, puisque les publications qui ont été récoltées par Bellingcat étaient faites au départ dans un contexte familial entre ses amis. Et ces photos, ces informations ont été sorties de ce contexte pour être publiées de façon publique, donc dans l'article de Bellingcat qui présentait les résultats de la recherche. Donc on remarque ainsi que l'intégrité contextuelle, c'est un outil qui est assez puissant pour réussir à mieux délimiter la vie privée et donc pour la protéger dans le cadre de l'OSINT, mais aussi dans le cadre d'Internet en général.
Merci Dorian pour cette ultime intervention très intéressante qui nous présente donc ce concept d'intégrité contextuelle. Alors c'est un concept vraiment intéressant. Alors en attendant qu'il soit traduit légalement, hein, qu'il trouve une application vraiment légale, on comprend avec ce que tu nous expliquais dans ta partie que pour protéger sa vie privée en ligne, pour l'instant il faut tout simplement limiter. Tout simplement, on a vu que c'était compliqué, mais qu'il fallait limiter la diffusion de données personnelles, puisque c'est à partir d'elles que l'on peut déduire des informations sans qu'aucun cadre légal ne limite cette démarche-là de déduction. Hein, tu l'expliquais bien. Et donc, en effet, hein, tu vois, ça m'a échappé, mais ce serait relativement facile, simple, si cela consistait uniquement en une décision individuelle. On pourrait se dire, voilà, je suis prudente, moi, vis-à-vis de mes données personnelles, alors je garde le contrôle, tout va bien. Mais pourquoi, je reviens un petit peu sur l'extrait audio que tu avais choisi, pourquoi est-ce que c'est plus compliqué que ça, finalement? Pourquoi est-ce que c'est plus compliqué qu'une décision individuelle?
En fait, on contrôle ces publications individuelles, mais on ne contrôle pas celles de nos proches, on ne contrôle pas celles d'une association sportive de laquelle on a pu faire partie, etc. Il y a vraiment plein d'exemples. Et donc, ce qui est publié, ce qui comporte notre image, ce qui comporte des informations sur nous, on ne peut pas vraiment le maîtriser. Et alors, ça a déjà été dit dans l'intervention précédente, et on peut voir vraiment les informations qui sont disponibles librement, publiquement sur nous, en faisant une recherche sur un moteur de recherche, donc Google, Ecosia, peu importe. Mais on peut voir que, en fait, ça, les informations qui sont disponibles sur nous, sur Internet, ça ne se limite vraiment pas à ce qu'on publie nous-mêmes, mais aussi à ce qui est publié sur nous.
Et donc, tu es en train de me dire qu'on a un intérêt finalement très égoïste à essayer de sensibiliser les personnes autour de nous, c'est ça?
Alors, un peu, mais en même temps, on doit être sensibilisé nous-mêmes pour ne pas publier de choses compromettantes sur elles.
Ça va dans les deux sens.
C'est pour le bien de tout le monde, oui.
En effet. Ok, merci. Merci Dorian. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer ainsi cet après-midi, les 18h20. On est dans les temps. Messieurs, dames, merci beaucoup pour votre intervention, pour votre travail sur cette présentation. On pourra réécouter votre présentation sur la chaîne WE1, sur l'instance Peertube, aperi.tube. Et toutes les interventions des étudiantes et des étudiants de WE1 de ce semestre et des semestres précédents. Venez aussi faire un tour sur librecours.net pour retrouver les supports du cours WE1 et puis sur team.picasoft.net, donc sur Mattermost, pour venir échanger avec nous à propos des présentations des étudiantes et des étudiants que vous avez écoutés. On va s'arrêter là, on va clôturer là cette troisième saison d'émission. Merci Léo et Brian pour l'accueil toujours aussi chaleureux chez Graphite. Merci à vous les étudiantes et les étudiants de WE1 d'avoir joué le jeu de la radio avec nous, avec Quentin et moi. Et puis Stéphane, merci d'avoir initié tout ça. Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt.